Est-ce que les gens de l'extérieur, quand ils voient un chrétien qui accomplit des choses banales, donc qui ne témoigne pas, qui ne vient pas à l'église, mais qui réalise son quotidien, est-ce qu'on voit une différence? Un chrétien qui fait ses courses et une personne du monde qui fait ses courses. Alors que celui qui fait les courses ne sait pas qu'il est vu. Est-ce que dans mon jardin, on peut me voir différente d'une personne qui n'est pas au Seigneur? C'est une question que je me pose. Le Seigneur, il nous dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui, car lui-même prend soin de vous. Ça, c'est dans 1 Pierre. Et c'est vrai que bien souvent, nous sommes accablés, chargés par plein de petites choses. Des choses qui semblent parfois insignifiantes, mais on a ce fardeau-là. On sait qu'on doit le décharger sur le Seigneur. On le sait. On essaye. Et bien souvent, on réalise qu'on a toujours ces fardeaux-là et qu'ils ne sont pas donnés. Ou qu'ils ont été donnés et qu'ils sont repris. Et même avec la meilleure volonté qu'on peut avoir, parfois, on n'y arrive pas. Et Dieu nous dit que il ne tient pas à ce que nous gardions ces fardeaux, mais qu'il veut nous donner autre chose. Il y a un verset dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, qui dit « Ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. » Ne vous affligez point comme ceux qui n'ont point d'espérance. Si nous vivons le présent et que nous n'avons aucune espérance et que le présent c'est le fardeau, nous resterons avec cela et nous ne saurons pas aller plus loin. Maman me racontait la semaine passée une histoire triste. C'est un voisin de chez mes parents. Il y a la voisine, elle s'est remise avec quelqu'un. Déjà, tous les deux beaucoup plus âgés, ils ont, dans leur temps passé à tous les deux, dilapidé l'argent qu'ils avaient. Il leur reste une maison. Tous les deux sont contents parce qu'ils ne payent pas grand-chose. À deux, ils y arrivent. Mais la femme est en train de maltraiter l'autre, l'homme, son compagnon. Et il se retrouve dans une situation tellement difficile qu'il a même été voir au home s'il n'y avait pas moyen qu'il soit mis, il n'avait pas assez d'argent, il a commencé à boire, ou il buvait déjà, je ne sais pas, étant diabétique, on l'a retrouvé en bas des escaliers, et il n'avait plus pris ses médicaments depuis pas mal de jours, plus l'alcool qu'il avait pris, il a été à l'hôpital, mais il est décédé. Et la réflexion de ma maman a été, je pense qu'il s'est laissé mourir, parce que le présent, ça c'est moi qui le dis, le présent était trop lourd pour lui. Si notre futur est vu comme notre présent, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'espoir. Mais en tant que chrétien, on sait que on a une espérance. Qu'on n'est pas, que notre présent n'est pas notre futur. Que Dieu nous prépare autre chose, qu'il a des projets de bonheur pour nous. Et si nous sommes un chrétien sans espérance, nous ne pouvons pas refléter la gloire du Seigneur. Et il veut que nous reflétions sa gloire sur cette terre. Il ne veut pas que nous restions comme ça. Ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Parce qu'on sait que notre futur n'est pas comme notre présent. Et Jeff Fontaine, quand il est venu vendredi, il y a une dizaine de jours, il a dit quelque chose qui m'a interpellée. Sandrine était là, sans doute que ça t'a touchée aussi. Il a expliqué, il a dit, si la femme, quand elle apprend qu'elle est enceinte, toute sa vie change. Elle ne voit encore rien, mais sa vie change parce qu'elle sait que dans le futur, il va y avoir ce bébé. Et donc, elle supporte toutes les souffrances. Le mal de dos, le mal de ventre, tout ce qu'on peut vivre, c'est pas grave. On a une joie immense parce qu'on a l'espérance de ce bébé qui va venir. Et nous, en tant que chrétiens, parfois on ne voit plus cette espérance, on n'a plus, et on vit le présent de plein fouet, les difficultés, les épreuves, sans voir plus loin. Et c'est tout à fait vrai, il y a une collègue à Mont, c'est une infirmière, elle était enceinte et quand elles sont infirmières, elles sont tout de suite écartées et puis elle est revenue dire bonjour. Et donc je lui ai demandé si elle allait bien. Ils étaient en train de construire ou d'avoir le projet de construire une maison. Et donc je lui ai demandé des nouvelles de la construction de sa maison. Et elle me dit « Oh, ça va pas ». Le plan n'a pas été accepté, le garage, on ne peut pas le mettre dans ce sens-là, on doit le mettre de l'autre côté de la maison, enfin, tout doit être changé, on doit refaire revenir l'architecte, enfin, et puis, au lieu que ça sera ce printemps, ça sera bien plus tard. Mais elle avait un grand sourire. Et je lui ai dit, on voit bien que tu es enceinte, tout pourrait s'écrouler, tout va bien. Elle dit oui, tout va bien. Et donc, je me suis dit, ben oui, elle supporte même les difficultés parce que elle a l'espérance d'une vie qui va venir. Et nous, en tant que chrétiens, on devrait être encore plus heureux que cela parce que notre espérance est plus grande. Même si l'avenue d'un enfant est quelque chose de merveilleux, notre espérance est plus grande encore que celle-là. On connaît dans la Bible beaucoup de passages qui parlent de l'espérance. Dans Timothée, il dit « Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. » On sait qu'il est vivant. Tite dit « La foi repose sur l'espérance de la vie éternelle. » Nous aurons la vie éternelle. Dans les psaumes, il est dit « Pourquoi t'as battu mon âme ?» On en a parlé vendredi. « Pourquoi t'as battu mon âme ? Espère en l'éternel. » Et parfois, je me faisais la réflexion, en tant qu'enfant, on espère, Saint-Nicolas va passer, Père Noël, et petite, je n'ai jamais douté que Saint-Nicolas ne passerait pas. J'avais cet espoir que j'allais recevoir, et je me dis, mais nous, notre espérance, elle est plus grande, parce que Dieu est vivant, il est vivant, et Dieu ne faiblit pas, ce ne sont pas nos parents, ce ne sont pas d'autres, c'est Dieu. Il est fidèle et ce qu'il a promis, il l'accomplit. Et sur cela, notre espérance, elle doit être grande. Et on va lire, on va ouvrir notre Bible dans 2 Rois, le chapitre 6. Souvent, on désire avoir cette espérance. Et on ne l'a pas quand même. Même si on connaît la parole, parfois c'est difficile. On vit des combats, on vit des difficultés et on a difficile. Alors on va lire dans 2 Rois. Le chapitre 6. Et on peut peut-être lire à partir du verset 14. Ou alors plutôt. Non, on va lire à partir du verset 14. C'est le roi de Syrie qui part en guerre contre le roi d'Israël. Et Élisée, qui est prophète, avertit le roi d'Israël d'où se trouve le campement du roi de Syrie. Et donc ça énerve très fort le roi de Syrie qui se demande un peu quoi. Et il est averti que Élisée prévient chaque fois le roi d'Israël. Au verset 14, le roi de Syrie finalement y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu, tout autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée, il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Veuille frapper cette nation d'aveuglement. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, conformément à la parole d'Élysée. Élysée leur dit, « Ce n'est pas le bon chemin, et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élysée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes, pour qu'ils voient. » Et on peut continuer, mais ce qui est étonnant, c'est que le serviteur d'Élysée ne voyait pas. Il ne comprenait pas comment il pourrait avoir la victoire. Et Élysée prie pour lui pour que ses yeux s'ouvrent, pour qu'il voie. Et bien souvent, nos yeux ne voient pas ce que Dieu veut accomplir. Nos yeux, notre cœur ne comprennent pas ce qu'il veut nous dire. Nos yeux sont fermés. Et nous devons demander au Seigneur de nous aider à voir par nos yeux spirituels. Il y a nos yeux où on voit les choses et souvent nos yeux nous trompent. Mais les yeux de Dieu nous montrent les réalités spirituelles de ce que Dieu veut nous montrer. Et c'est tellement important. On va lire aussi dans Actes 9, c'est l'histoire de Paul qu'on connaît. Quand Saul de Tarse tombe par terre et que Dieu se révèle à lui. Donc c'est Actes 9, verset 8. Donc là, il a été touché par le Seigneur. Léa, tu ne me vois pas du tout. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias, entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints, à Jérusalem, et ici il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, au roi et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Et puis il va servir le Seigneur. Les écailles sont tombées de ses yeux. Dieu a permis qu'il ne voie plus de ses yeux naturels, mais pour que ses yeux spirituels s'ouvrent et que Dieu puisse l'utiliser et que lui puisse comprendre combien Dieu était grand et à quoi il était appelé. Et nous avons vraiment besoin aussi que Dieu parfois enlève les écailles de nos yeux parce que nous ne voyons qu'avec nos yeux naturels. Et Dieu veut que nous allions plus loin. Il y a une histoire cette semaine qui m'a vraiment fait sourire dans la parole de Dieu. C'est quand Lazare a été ressuscité par Jésus et que peu de temps après, Jésus s'est retrouvé à Béthanie avec Lazare, et que les principaux sacrificateurs sont venus à Béthanie, et il a dit que tous les Juifs venaient voir Lazare, et que beaucoup se ralliaient à Jésus par la résurrection de Lazare, et les principaux sacrificateurs aussi, mais pas pour ça, pour tuer Lazare et Jésus. Et je me suis dit, mais ils n'ont pas compris. Lazare, il était déjà mort, Jésus l'a ressuscité, ils veulent le tuer, leur faire mourir une deuxième fois, et Jésus est là. Et ils n'ont pas compris que c'est pas possible, Jésus est là, il l'a déjà ressuscité. Je me dis, c'est étonnant, avec toute leur connaissance, qu'ils n'ont pas compris. Mais plus loin dans le texte, il est dit, ils étaient aveuglés, pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne voient pas. Et c'est surprenant, et nous ne voulons pas être aveuglés. Même si nous connaissons la parole de Dieu, nous voulons que le Seigneur nous éclaire. Et il y a deux versets, et c'est vrai que Serge en a parlé en priant, Jérémie 33, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dans Daniel 2, 22, il est dit, « Il révèle ce qui est profond et caché. » Dieu veut se révéler à ses enfants. Il veut que nous allions plus loin. Pas que nous restions au stade où nous sommes, mais il veut se révéler et nous montrer plus. Et je pense que l'ennemi n'est pas content et ne veut pas que nous restions. Il veut que nous restions dans cet état et que nous n'allions pas plus loin, que nous ne connaissions pas plus. Et hier, c'est étonnant parce que on était à la réunion chez Daddy et Sandrine vendredi où tout s'est bien passé. Vraiment, c'était une journée de joie. C'était vraiment, on s'est très bien plu, on est rentré pendant la nuit. À 2h30 du matin, Léa est arrivée dans notre chambre et elle nous a dit qu'elle était vraiment pas bien. Donc elle est venue tout près de nous et j'ai vu qu'elle était brûlante. Mais brûlante. Et elle tremblait. Et donc, on lui a donné un dafalgan et donc je lui ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Elle m'a dit j'ai très mal à la tête, j'ai très chaud, je tremble, j'ai mal dans la nuque. Bon, je suis à l'hôpital, j'ai des réunions avec les médecins. Je sais que la fièvre, les maux de tête violents, les raideurs dans la nuque, bon, c'est la méningite. Bon, ça ne me fait pas rire du tout. Et puis, il manquait le vomissement. Ça, je savais qu'il fallait aussi, mais là, il n'y avait pas. Et donc, on est en pleine nuit, service de garde, l'hôpital. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai donné de l'apalgan, elle est restée près de nous. Et puis, après une heure, ça s'est calmé. Mais à peu près toutes les heures, j'étais voir pour voir s'il n'y avait pas de la température, ça baissait. J'étais vraiment inquiète. J'étais pas bien du tout. Et puis elle s'est réveillée hier, la fièvre est revenue et elle a remis ce que je craignais. Elle a remis. Et donc je me disais Seigneur, je ne peux pas m'affoler, je ne peux pas m'inquiéter. Et chose étonnante, après-midi, je me suis dit, bon, je prépare. C'est le temps que je dois préparer la parole de Dieu. Elle était restée dans son lit, mais là, elle était revenue au salon. Elle est restée dans le divan et j'ai dit, ben, regarde un peu la TV, ça te changera les idées. Et moi, je prépare. Je voulais qu'elle ne soit pas loin. J'étais inquiète. Et elle a zappé. Et quand elle a zappé, il y a une émission où ça a duré 30 secondes. Je sais pas si elle l'a, j'ai rien dit. Je sais pas si elle l'a vu, mais c'était un témoignage d'un homme qui avait perdu sa femme par une méningite fulgurante. Et qui, c'est 30 secondes. Et moi, je préparais. Je me dis, Seigneur, je sais que c'est l'ennemi. Je ne dois pas me laisser distraire. Mais Il y avait quand même quelque chose là. Puis l'après-midi s'est passé et j'ai réalisé que vers 5 heures, j'étais pas bien du tout. J'avais préparé, tout était prêt, mais j'étais pas bien du tout. Alors j'étais marchée, j'ai crié au Seigneur, je dis « Seigneur, tu dois agir ». Et je me retrouvais un peu comme cette image que je vous ai donnée. On sait que l'ennemi attaque, on sait, mais on est avec le fardeau et on l'a toujours sur le dos. Et je dis « je parle demain, et quoi ?» Et moi je suis comment? Et j'arrive même pas à ce que ce fardeau-là parte. Je suis inquiète et il n'y a rien qui part. Et j'ai crié à Dieu. Et quand c'est comme ça, je dis, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivrée de mes ennemis. Et je le répète, et je le répète, et je le répète. Plus les versets sur l'inquiétude. Et puis à un moment donné, le Seigneur m'a dit, Chantal, tu n'as pas vu l'œuvre de l'ennemi? Ben si, je l'ai vu, je le sais. L'ennemi, il est quoi? Menteur. Alors, ce que tu as vu à la TV, mensonge. Alors, ben c'est pas vrai. Donc je n'ai plus du tout à m'inquiéter. Et là, j'ai été délivrée du fardeau. Je me suis dit, ça va. Je savais que c'était l'œuvre de l'ennemi, mais j'avais besoin d'une parole du Seigneur. J'avais besoin de plus. Et quand on est dans cet état de difficulté, d'épreuve, on doit aller plus loin. On doit rechercher le Seigneur. Et il faut que le Seigneur nous montre, ouvre nos yeux. Je le savais, mais j'avais besoin d'une parole du Seigneur. J'avais besoin de plus. Et le Seigneur, il veut qu'on aille plus loin, qu'on le recherche pour qu'il puisse nous parler, nous donner sa parole, mais sa parole pour nous. Sa connaissance pour nous. Il peut nous révéler des choses cachées qu'on ne connaît pas. Il veut qu'on sorte de cet état où le fardeau reste sur nous. Et j'avais cette image de la cave. L'ennemi veut que nous restions comme dans une cave. Sombre, noire, sans lumière. Et je me souviens de cette histoire qui est vraie, où des personnes, je ne sais pas où elles habitaient ces personnes, mais en Belgique je crois, où ces personnes ont raconté autour d'eux qu'ils partaient en vacances. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas l'argent? Je ne sais pas. Je pense que c'est ça. Ils ne sont pas partis. Ils sont restés dans leur cave. Et ils ont fait croire à tout le monde qu'ils étaient partis. Et ils ont vécu dans leur cave. Jusqu'au jour où des voisins ont quand même vu pendant la nuit une petite lumière. Par le soupirail ou je sais pas par quoi. Et ils ont appelé la police. Et la police est venue parce qu'on a cru qu'il y avait des voleurs dans la maison. Et donc on s'est aperçu que, en fait, ils étaient dans la cave. Donc les gens sont restés dans la cave. Et l'ennemi voudrait qu'on reste dans notre cave. Il y a un verset qui m'a été donné et que je veux proclamer. Celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Il ne manquera pas de son pain. L'ennemi veut qu'on reste dans la fosse, dans la cave, et qu'on ne monte pas plus haut, qu'on n'aille pas plus loin. Et je me dis, mais c'est affreux de vivre peut-être une vie dans une cave, les escaliers sont là, et à la fin de la vie, peut-être quand la personne est morte, on lui dit, tu sais, il y avait les escaliers là, tu pouvais, et tu sais, ta maison, c'était pas que la cave, c'était, il y avait plein de pièces au-dessus, lumineuses, éclairées, ça c'est les promesses de Dieu, c'est ce qu'il a prévu pour nous. Maintenant, il faut monter par cet escalier. Et si on ne le trouve pas, parce que c'est vrai que c'est pas facile, il faut le chercher. Et il faut demander, Seigneur, montre-moi, parle-moi, révèle-moi. Et c'est pas toujours en quelques minutes, une petite prière comme ça, mais il faut vraiment le rechercher. Le rechercher et le rechercher encore. Jusqu'à temps qu'on trouve peut-être cet escalier qui va nous faire monter plus loin. Et quand Dieu nous parle, hop, on est encouragé. On n'est pas sans espérance. Ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Non, on a l'espérance que notre vie, même si elle nous semble sombre, Dieu a des projets différents. Notre futur ne sera pas comme notre présent maintenant. Et bon, c'est merveilleux de voir combien Dieu est bon. Et quand je suis rentrée pour par rapport à Léa, j'avais la joie dans mon cœur. Je n'avais plus cette inquiétude. Là, j'étais déchargée. Le téléphone sonne et Madame Faita, qui est doctoresse, qui vient. Et elle voulait simplement me donner un verset qui n'avait rien à voir avec Léa. Mais alors là, je lui ai parlé de Léa. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, depuis une semaine, il y a des grippes. C'est ça. Et j'avais la confirmation en plus et je me dis, Dieu est bon, parce que je me disais, je vais pas téléphoner. Téléphoner où le 1er novembre? Service de garde. S'il y a des doutes, bon, ils vont me faire courir à l'hôpital, ils vont pas se mouiller. Léa m'avait dit, est-ce qu'on peut pas téléphoner? Je dis, mais ils vont pas se mouiller, là. Ils vont dire, bah, venez, point. Mais ils vont pas, mais là, Claire, Madame Faita, c'est la grippe. Et elle est là ce matin, Léa. Je sais pas comment. Mais elle est là, Dieu est bon. Et parfois, c'est vrai que tout est sombre, mais dans le psaume 42, il est dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel. C'est un ordre. Espère en l'Éternel. Et dans le psaume, il est mis plusieurs fois. Espère en l'Éternel. Nous ne sommes pas sans espérance. Et si nous nous en manquons, si tout nous semble gris, passons du temps dans la présence du Seigneur pour que nos yeux s'ouvrent à ce qu'il prépare pour nous. Il y avait autre chose, c'est prions pour tous ceux qui ont encore des écailles sur leurs yeux. On a notre évangélisation vendredi pour le suicide, enfin, par rapport au suicide, et je me dis, les gens sont aveuglés, les gens du monde sont aveuglés, l'ennemi les aveugle. Prions pour que les écailles des yeux tombent, pour que Dieu éclaire, qu'il voit. Parfois, nous pouvons parler du Seigneur et il y a comme un mur, il y a un esprit d'aveuglement. Eh bien, nous avons un sujet de prière, que les écailles des yeux de ceux à qui on parle tombent, pour que la parole puisse pénétrer leur cœur. Je pense que Paul, Saul de Tarse, avant, il avait la connaissance, on aurait pu lui parler, mais ça ne servait à rien. Mais quand Dieu a enlevé les écailles de ses yeux, qu'il les a fait tomber, il a vu. Il a vu la gloire du Seigneur, il a vu ce que Dieu allait faire dans sa vie, même s'il allait souffrir, il a vu combien Dieu était grand. Et nous voulons prier pour les autres, mais nous voulons prier aussi pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions aller plus loin. Et que s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, que nous recherchions pour qu'il nous éclaire et nous parle. Que le Dieu d'espérance remplisse vos cœurs de joie, c'est dans Romains 15. Et je redis que le Dieu d'espérance remplisse nos cœurs de joie. Nous voulons que nos cœurs soient remplis d'espérance et de joie. Pas comme les gens de ce monde, mais parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons fermer nos yeux. Camille, Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur.